Chapitre 11. Aristote. Un homme d'ordre méticuleux fait le ménage dans nos concepts. Pendant que sa mère faisait la sieste, Sophie alla dans sa cabane. Elle avait glissé un morceau de sucre dans l'enveloppe rose et écrit « Pour Alberto » dessus. Elle ne trouva pas de nouvelles lettres, mais ne tarda pas à entendre approcher le chien.
Hermès !
Cria Sophie. L'instant d'après, il surgissait dans la cabane en tenant une grande enveloppe jaune dans la gueule.
Bon chien, va.
Sophie passa un bras autour de lui. Il haletait furieusement. Elle sortit l'enveloppe rose avec le sucre et la lui mit dans la gueule. Il se faufila hors de la cabane et repartit en direction de la forêt. En ouvrant l'enveloppe, Sophie était un peu nerveuse. Disait-il un mot à propos du chalet et de la barque? L'enveloppe contenait les feuilles habituelles maintenues ensemble par un trombone. Mais il y avait aussi un petit mot sur papier libre. Chère mademoiselle détective, ou plus exactement, mademoiselle cambrioleur, la police est déjà au courant du vol perpétré. Non, je ne suis pas vraiment fâchée. Si tu mets la même ardeur à résoudre des questions philosophiques, c'est plutôt bon signe. Le seul ennui, c'est que je me vois contraint de déménager. Enfin, c'est de ma faute. J'aurais dû me douter que tu irais au fond des choses. Amicalement, Alberto. Sophie laissa échapper un soupir de soulagement. Il n'était donc pas fâché. Mais dans ce cas, pourquoi déménager ? Elle emporta les grandes feuilles et courut dans sa chambre. Mieux valait être à la maison quand sa mère se réveillerait. Elle s'installa bien confortablement dans son lit et commença à lire sur Aristote. Philosophe et homme de science. Chère Sophie, la théorie de Platon t'a certainement surprise, et tu n'es pas la seule. Je ne sais pas si tu as tout pris pour argent comptant ou si tu as formulé quelques objections. Si oui, tu peux être sûr que ce sont les mêmes objections qu'Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, souleva, lui qui fut l'élève de Platon à son académie pendant plus de 20 ans. Aristote lui-même n'était pas athénien. Il était originaire de Macédoine, mais vint à l'académie de Platon quand ce dernier avait 61 ans. Son père était un médecin réputé et un homme de science. Ce milieu nous renseigne déjà sur le projet philosophique d'Aristote. Il s'intéressa surtout à la nature vivante. Il ne fut pas seulement le dernier grand philosophe grec, il fut le premier grand biologiste en Europe. En caricaturant un peu, on pourrait dire que Platon s'était tellement concentré sur les formes éternelles ou les idées qu'il ne prêtait guère attention aux phénomènes naturels. Aristote, au contraire, s'intéressait à ces phénomènes naturels que l'on pourrait aussi appeler les cycles de la vie. En poussant encore plus loin, nous dirons que Platon se détourna du monde des sens pour aller au-delà de tout ce qui nous entoure. Il voulait sortir de la caverne, il voulait apercevoir le monde éternel des idées. Aristote fit exactement l'opposé. Il se mit à quatre pattes et étudia les poissons, les grenouilles, les anémones et les violettes. Platon n'utilisa que sa raison, si tu préfères, alors qu'Aristote utilisa aussi ses sens. De grandes différences apparaissent également dans leur façon d'écrire. Platon était un poète et un créateur de mythes, tandis que les écrits d'Aristote sont secs et descriptifs comme un dictionnaire. En revanche, la plupart de ses écrits sont fondés sur des recherches de terrain. On mentionnait dans l'Antiquité quelques 170 titres écrits par Aristote. Parmi ses écrits, 47 d'entre eux seulement ont pu être conservés. Il ne s'agit pas de livres achevés, car les écrits d'Aristote sont le plus souvent de simples notes devant servir à ses cours. N'oublions pas qu'à l'époque d'Aristote aussi, la philosophie était avant tout une activité orale. La culture européenne doit à Aristote l'élaboration d'un langage scientifique propre à chacune des sciences, ce qui n'est pas rien. Il fut le grand systématicien qui fonda et ordonna les différentes sciences. Comme Aristote a écrit sur toutes les sciences, je vais me contenter de passer en revue les domaines les plus importants. Et puisque je t'ai longuement parlé de Platon, tu vas apprendre quelle était son opinion à propos de la théorie de ce dernier. Après, nous verrons comment il a développé sa propre philosophie. Aristote commença par résumer ce que les philosophes de la nature avaient dit avant lui. Puis, il mit de l'ordre dans nos concepts et fonda la logique comme science. Enfin, je te dirai quelques mots de la conception d'Aristote sur l'être humain et la société. Si tu acceptes ces conditions, il ne nous reste plus qu'à remonter nos manches et nous mettre au travail. Aucune idée innée. Comme les philosophes avant lui, Platon voulait définir quelque chose d'éternel et d'immuable au sein de tous les changements. Aussi, inventa-t-il les idées parfaites qui planent au-dessus du monde des sens. Platon pensait d'ailleurs que les idées étaient plus réelles que les phénomènes naturels. Il y avait d'abord l'idée du cheval, puis tous les chevaux du monde arrivaient au trot et défilaient en ombre chinoise sur le mur de la caverne. L'idée de la poule venait donc tout à la fois avant la poule et avant l'œuf. Aristote trouva que Platon avait posé le problème à l'envers. Il reconnaissait avec son maître que le cheval, pris séparément, flottait et qu'aucun cheval ne vivait éternellement. Il reconnaissait aussi que la forme du cheval est éternelle et immuable. Mais l'idée du cheval est seulement un concept que nous autres hommes avons créé après avoir vu un certain nombre de chevaux. L'idée ou la forme du cheval n'existe pas en soi. La forme du cheval est constituée, selon Aristote, par les qualités propres du cheval, ce qu'en d'autres termes nous appelons l'espèce cheval. Précisons. Quand Aristote emploie le terme de « forme », il veut dire ce qui est commun à tous les chevaux. Ici, l'image avec les moules des petits bonshommes de pain d'épices n'est plus valable, car les moules de ces gâteaux existent indépendamment des bonshommes de pain d'épices qu'on forme grâce à eux. Selon Aristote, il n'existe pas de tels moules qui seraient, pour ainsi dire, stockés sur une étagère en dehors de la nature. Les formes sont, pour Aristote, présentes dans les choses, comme la somme de leurs qualités particulières. Aristote n'est donc pas d'accord avec Platon quand celui-ci affirme que l'idée de poule précède la poule. Ce qu'Aristote appelle la forme de la poule est présent dans chaque poule. Ce sont ses qualités spécifiques, comme celle, par exemple, de pondre des œufs. Vu sous cet angle, la poule proprement dite et la forme de la poule sont tout aussi indissociables que l'âme et le corps. Cela posé, nous avons en fait résumé l'essentiel de la critique d'Aristote vis-à-vis de la théorie de Platon. Remarque cependant que nous sommes à un moment clé de l'histoire de la pensée. Pour Platon, le plus haut degré de réalité est constitué par ce que nous pensons grâce à notre raison. Pour Aristote, c'était une évidence que le plus haut degré de réalité était ce que nous percevons avec nos sens. Platon pensait que tout ce que nous voyons autour de nous n'est qu'un reflet de quelque chose qui, au fond, a plus de réalité dans le monde des idées et, par conséquent, dans l'âme humaine. Aristote pense exactement le contraire. Ce qui est dans l'âme humaine n'est qu'un reflet des objets de la nature. C'est la nature et elle seule qui constitue le vrai monde. Platon reste prisonnier, selon Aristote, d'une vision du monde mythique où l'homme projette ses représentations et les substitue au monde réel. Selon Aristote, rien ne peut exister dans la conscience qui n'ait d'abord été perçue par nos sens. Platon lui aurait dit qu'il n'y a rien dans la nature qui n'ait d'abord existé dans le monde des idées. Aristote trouvait que de cette façon, Platon doublait le nombre des choses. Il expliquait le moindre cheval en recourant à l'idée du cheval. Mais quel genre d'explication est-ce, Sophie ? D'où vient donc l'idée du cheval? Il existe peut-être un troisième cheval, alors, dont l'idée de cheval ne serait qu'une copie? Aristote pensait que toutes nos idées et pensées avaient leur origine dans ce que nous voyons et entendons. Mais nous naissons aussi avec une raison. Certes, nous n'avons pas d'idée innée au sens où l'entendait Platon, mais nous avons une faculté innée de classer toutes les impressions de nos sens en différents groupes et catégories. Ainsi jaillissent les concepts de pierre, plante, animal et homme, comme ceux de cheval, homard et canari. Aristote ne nie aucunement que l'homme soit né doué de raison. Bien au contraire, la raison est, selon Aristote, le signe distinctif de l'homme. Mais notre raison est toute vide avant que nos sens ne perçoivent quelque chose. Un être humain n'a donc pas, selon lui, d'idée innée. La forme d'une chose, c'est l'ensemble de ses caractéristiques spécifiques. Après avoir déterminé sa position vis-à-vis de la théorie de Platon, Aristote constate que la réalité est composée de différentes choses qui, prises séparément, sont elles-mêmes composées de formes et de matière. La matière, c'est ce dont la chose est faite, tandis que la forme est la somme de ses qualités particulières spécifiques. Imagine-toi, Sophie, une poule qui battrait des ailes. La forme de la poule explique qu'elle batte des ailes, caquette et pond des œufs. La forme de la poule recouvre donc les caractéristiques propres de son espèce ou, si tu préfères, ce qu'elle fait. Quand la poule meurt et ne caquette plus, alors la forme de la poule cesse elle aussi d'exister. Tout ce qui reste, c'est la matière de la poule. Pas très gai tout ça. Mais ce n'est plus une poule, au sens proprement dit. Comme je l'ai déjà dit, Aristote s'intéressait aux changements dans la nature. La matière porte toujours en elle la possibilité d'atteindre une certaine forme. Nous pouvons dire que la matière tend à rendre réelle une possibilité sous-jacente. Chaque changement s'explique, selon Aristote, comme un passage de la matière du possible au réel. Attends, laisse-moi t'expliquer, Sophie. Je vais essayer de mieux me faire comprendre en te racontant une histoire drôle. Il était une fois un sculpteur qui était penché au-dessus d'un gros bloc de granit. Chaque jour, il taillait et sculptait dans la pierre informe, et un jour, il reçut la visite d'un petit garçon. « Qu'est-ce que tu cherches ?» demanda le garçon. « Attends et tu vas voir, » répondit le sculpteur. Quelques jours plus tard, le garçon revint et le sculpteur avait transformé le bloc de granit en un splendide cheval. Le garçon fixa bouche bée le cheval. Puis, il se tourna vers le sculpteur en lui demandant « Comment pouvais-tu savoir qu'il était caché à l'intérieur ?» En effet, comment avait-il fait? Le sculpteur avait d'une certaine manière vu la forme du cheval dans le bloc de granit, car ce bloc de granit portait en lui la possibilité d'être sculpté en cheval. Aristote pensait de la même façon que toutes les choses dans la nature ont en puissance de devenir, de réaliser une certaine forme. Revenons à la poule et l'œuf. Un œuf de poule est une poule en puissance. Ce qui ne veut pas dire que tous les œufs de poule deviendront des poules, car certains finiront sur la table du petit déjeuner sous la forme d'œuf à la coque, d'omelette ou d'œuf mollet, sans que la forme inhérente à l'œuf devienne réalité. Mais en aucun cas, un œuf de poule ne donnera naissance à une oie, car cette possibilité-là ne fait pas partie de l'œuf de poule. La forme d'une chose nous renseigne par conséquent sur ce qu'elle peut être, mais aussi sur ses limites. Quand Aristote parle de la forme et de la matière des choses, il ne pense pas seulement aux organismes vivants. De même qu'il est dans la forme de la poule de caqueter, de battre des ailes et de pondre, il est dans la nature de la pierre de tomber à terre. La poule ne peut pas plus s'empêcher de caqueter que la pierre de tomber sur le sol. Tu peux bien entendu soulever une pierre et la jeter très haut en l'air, mais parce qu'il est dans la nature de la pierre de chuter, tu ne pourras jamais la lancer jusqu'à atteindre la lune. Prends d'ailleurs garde si tu fais cette expérience, car la pierre peut chercher à se venger. Elle revient le plus vite possible sur la terre et gare à qui elle trouve sur sa trajectoire. La cause finale. Avant d'en finir avec cette forme que toutes les choses vivantes et inanimées possèdent et qui révèle ce que ces choses sont en puissance, j'aimerais ajouter qu'Aristote avait une conception tout à fait étonnante des phénomènes de causalité dans la nature. Quand nous parlons aujourd'hui de cause, nous cherchons à comprendre comment telle ou telle chose s'est produite. La vitre a été cassée parce que Peter a jeté un caillou contre elle. Une chaussure est fabriquée parce que le bottier coud ensemble des morceaux de cuir. Mais Aristote pensait qu'il y a plusieurs sortes de causes dans la nature. Il en distingue quatre en tout. Il est tout d'abord essentiel de comprendre ce qu'il entendait par « cause finale ». Quand il s'agit de la vitre cassée, il est légitime de demander pourquoi Peter a lancé un caillou contre elle. Nous voulons savoir quelle était son intention. Que le but ou le dessin entre aussi en jeu dans la fabrication de la chaussure, cela va de soi. Mais Aristote appliquait aussi cette intention au phénomène naturel. Un exemple va nous éclairer sur ce dernier point. Pourquoi pleut-il, Sophie? Tu as certainement appris en classe qu'il pleut parce que la vapeur d'eau contenue dans les nuages se refroidit et se condense en gouttes de pluie qui tombent sur la terre en vertu de la loi de la pesanteur. Aristote n'aurait rien trouvé à redire à cela. Mais il aurait ajouté que trois causes seulement sont mises en lumière avec cette explication. La cause matérielle est que la vapeur d'eau réelle, les nuages, se trouvait là précisément quand l'air se refroidit. La cause efficiente est que la vapeur d'eau se refroidit. Et la cause formelle est que la forme ou la nature de l'eau est de tomber, patatras, sur la terre. Si tu n'avais rien dit de plus, Aristote, lui, aurait ajouté qu'il pleut parce que les plantes et les animaux ont besoin de l'eau de pluie pour croître et grandir. C'est ce qu'il appelait la finalité. Comme tu vois, Aristote donna d'un seul coup aux gouttes d'eau une finalité dans la vie, un dessein. Nous sommes tentés de retourner le problème et dire que les plantes poussent parce qu'il y a de l'humidité. Saisis-tu la nuance, Sophie? Aristote pensait que chaque chose dans la nature avait son utilité. Il pleut afin que les plantes puissent croître, et il pousse des oranges et des raisins afin que les hommes puissent en manger. La science pense différemment de nos jours. Nous disons que la nourriture et l'humidité sont une condition pour la vie des animaux et des hommes. Si ces conditions n'avaient pas été remplies, nous n'aurions pu vivre. Mais ce n'est pas la finalité de l'eau ou de l'orange de nous nourrir. En ce qui concerne sa conception des causes, nous serions tentés d'affirmer qu'Aristote s'est trompé. Mais gardons-nous de tirer des conclusions trop hâtives. Beaucoup croient que Dieu a créé le monde sous cette forme afin que les hommes et les animaux puissent y vivre. Si on part de ce principe, on peut naturellement soutenir qu'il y a de l'eau dans les fleuves parce que les hommes et les animaux ont besoin d'eau pour vivre. Mais nous parlons dans ce cas de l'intention ou du dessein de Dieu. Ce ne sont pas les gouttes de pluie ou l'eau du fleuve qui nous veulent du bien. La logique. La différence entre la forme et la matière joue aussi un rôle important quand Aristote décrit comment l'homme distingue les choses au monde. Nous classons toutes les choses que nous percevons en différents groupes ou catégories. Je vois un cheval, puis j'en vois un autre, et encore un autre. Les chevaux ne sont pas exactement semblables, mais il y a quelque chose qui est commun à tous les chevaux. Et cet élément de ressemblance entre tous les chevaux, c'est justement la forme du cheval. Ce qui différencie tel cheval d'un autre relève de la matière du cheval. Ainsi, nous parcourons le monde en cloisonnant les choses. Nous mettons les vaches à l'étable, les chevaux à l'écurie, les cochons dans la porcherie et les poules au poulailler. C'est exactement ce que fait Sophie Amundsen quand elle range sa chambre. Elle met les livres sur l'étagère, les livres de classe dans son cartable et les revues dans le tiroir de sa commode. Elle plie soigneusement ses vêtements et les range dans l'armoire, les t-shirts sur une étagère, les pulls sur une autre et les chaussettes dans un tiroir à part. Eh bien, nous faisons la même chose dans notre tête. Nous faisons une distinction entre les choses qui sont en pierre, en laine ou en plastique. Nous distinguons les choses vivantes des objets inanimés et nous faisons une différence entre les plantes, les animaux et les hommes. Jusque-là, tu me suis, Sophie ? Aristote voulait en quelque sorte faire à fond le ménage dans la chambre de jeune fille de la nature. Il s'attacha à démontrer que toutes les choses dans la nature appartiennent à différents groupes eux-mêmes subdivisés en sous-groupes. Hermès est un être vivant, plus exactement un animal, plus exactement un animal vertébré, plus exactement un mammifère, plus exactement un chien, plus exactement un labrador, et enfin, plus exactement, un labrador mâle. Monte dans ta chambre, Sophie. Prends n'importe quel objet par terre. Tu peux prendre ce que tu veux. Cela pourra toujours faire partie d'un groupe supérieur. Le jour où tu trouveras quelque chose que tu ne parviendras pas à classer, tu auras un choc. Si tu découvres, par exemple, un petit bout de quelque chose et que tu ne puisses déterminer avec assurance s'il appartient au monde végétal, animal ou minéral, je te garantis que tu n'oseras pas y toucher. J'ai parlé du monde végétal, du monde animal et du monde minéral. Je pense à ce jeu où l'on envoie quelqu'un dans le couloir pendant que les autres se mettent d'accord sur quelque chose que l'exclu devra deviner en revenant. Le petit groupe a choisi, par exemple, de penser au chat Mons, qui se trouve pour l'instant dans le jardin du voisin. Le malheureux revient et pose ses premières questions. On a juste le droit de répondre oui ou non. Si le malheureux est un bon aristotélicien, ce qui dans ce cas exclut le terme de malheureux, voilà à quoi pourrait ressembler la conversation. Est-ce concret ? Oui. Est-ce que cela appartient au règne minéral ? Non. Est-ce une chose vivante ? Oui. Est-ce que cela appartient au règne végétal ? Non. Est-ce un animal ? Oui. Est-ce un oiseau ? Non. Est-ce un mammifère ? Oui. Est-ce un animal en entier ? Oui. Est-ce un chat ? Oui. Est-ce Mons ? Oui ! Aristote a donc inventé ce jeu de société. Nous laisserons à Platon l'honneur d'avoir inventé le jeu de cache-cache dans le noir. Quant à Démocrite, nous l'avons déjà remercié d'avoir eu l'idée du Lego. Aristote était un homme d'ordre qui voulait faire un peu de rangement dans les concepts des êtres humains. Ainsi, c'est lui qui a fondé la logique comme science. Il indiqua plusieurs règles strictes pour que des conclusions ou des preuves soient logiquement valables. Nous allons nous en tenir à un exemple. Si j'affirme que tous les êtres vivants sont mortels, première prémisse, et que j'énonce que Hermès est un être vivant, deuxième prémisse, alors j'en tire l'élégante conclusion que Hermès est mortel. L'exemple montre que la logique d'Aristote s'attache aux relations entre les concepts. Dans le cas présent, entre le concept de vie et le concept de mortalité. Même si nous voulons bien reconnaître qu'Aristote avait raison dans sa conclusion logique, il faut avouer qu'il ne nous apprend pas grand-chose. Nous savions dès le départ qu'Hermès est mortel. Il est un chien et tous les chiens sont des êtres vivants, donc mortels, contrairement au massif du Mont-Blanc. Eh oui, Sophie, jusqu'ici, rien de nouveau. Mais les relations entre les différentes notions ne sont pas toujours aussi évidentes. il peut s'avérer nécessaire de mettre un peu d'ordre dans nos concepts. Là encore, prenons un exemple. Est-il vraiment possible que les minuscules souriceaux têtent le lait de leur mère tout comme les moutons et les cochons? Je sais que ça peut sembler tout à fait ridicule, mais arrêtons-nous un instant. Une chose est sûre, c'est que les souris ne pondent pas. Quand ai-je vu pour la dernière fois un œuf de souris? Elles mettent au monde des petits déjà vivants, exactement comme les cochons et les moutons. Mais les animaux qui mettent au monde des petits déjà vivants sont appelés mammifères. Et être un mammifère, c'est téter sa mère. Nous y voilà. Nous avions la réponse en nous, mais devions réfléchir un instant. Réfléchir à la question. Dans notre précipitation, nous avions oublié que les souris têtent vraiment leur mère. Peut-être parce que nous n'avons jamais vu de souris sauter, car les souris sont gênées de nourrir leurs petits devant nous.